Et nous avons quelques minutes pour répondre à des questions.
Bonjour, Paul Hirschkorn-Barnu. Alors, je suis médecin, je suis gynécologue obstétricienne. Alors, monsieur Henrion, merci beaucoup, vraiment. Vous êtes aussi médecin, il me semble, et gynécologue aussi obstétricien, et vous militez depuis très longtemps. Quant au professeur Philippe, voilà, et puis à tous les médecins qui ont été là. Donc, quand même, je voudrais un peu relever le niveau des médecins. Et je veux surtout relever ce que disait le professeur Philippe sur l'utilité de cette journée. Et au fond, c'est des questions d'utilité dont je vais essayer de parler. Alors, j'ai pas entendu parler, et peut-être que c'est pas d'à propos, mais quand même, de la place des centres de planification familiale. Parce qu'au fond, c'est des dispositifs où il y a des médecins, où il y a des sages-femmes, où il y a des conseillères conjugales, parfois des assistantes sociales, parfois des psychologues. Ces dispositifs dans toutes les villes de France. Et au fond, on est quand même en charge du repérage précoce. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des femmes qui se font battre. Alors évidemment, c'est urgent, il faut les prendre en charge. Voilà. Mais aussi, on a une mission de prévention de ces risques, non seulement vis-à-vis des jeunes femmes, mais aussi avec les jeunes hommes, avec les jeunes adolescents. Et par expérience, au fond, puisque je fais aussi ça, je me rends compte qu'on a peut-être pendant beaucoup d'années insisté sur la prévention des IST, des infections sexuellement transmissibles, et que peut-être on a laissé de côté, au fond, la sexualité. Alors ça, c'est... Voilà. Et c'est bien de sexualité dont on parle, de la position du jeune homme, mais aussi de la position de la jeune femme. Voilà, donc ça, c'est peut-être des pistes pour nos ados qui se mettent souvent en danger et qui ne le disent pas. La situation de grossesse aussi, vous l'avez tous dit, c'est vraiment un moment très important. Qu'elle débouche sur un avortement ou qu'elle débouche sur un enfant. Alors là encore, il y a des pistes d'utilité, les centres d'orthogénie, hospitaliers, il y a des équipes qui sont spécialisées. On ignore aussi que l'orthogénie, c'est une spécialisation médicale. Et que là encore, on a des manières aussi de pouvoir amener les femmes dans un moment extrêmement favorable à pouvoir raconter un petit peu ce qu'elles ne racontent jamais. Et puis ensuite, eh ben, monsieur Henrion, bien sûr, le lien entre l'entretien prénatal précoce et cette vigilance. Est-ce que vous avez pu l'établir ou pas? Est-ce que les différents intervenants et les militants et les associations qui militent contre les violences faites aux femmes se mettent aussi en rapport avec ceux qui militent pour que cet entretien prénatal précoce s'installe de manière large et relativement systématique dans nos maternités? Parce que c'est... Voilà. Donc ça, c'était la deuxième question d'utilité. Et maintenant, alors évidemment, j'ai une autre casquette, et là, je voudrais un peu souligner les violences que nos propres dispositifs et nos propres organisations, parfois, infligent à certaines femmes, puisque je suis aussi directrice du réseau Solipam, donc des femmes enceintes en situation de très grande précarité sociale, en région Île-de-France particulièrement, mais je pense à toutes les femmes en situation de très grande précarité, qui passent à travers tous les dispositifs, et parfois la violence qu'elles ont subie les amène à être en situation de grande précarité. La violence est un des facteurs de précarisation des femmes. Et parfois, elles tombent et aucun dispositif ne les reconnaît en tant que ce qu'elles sont.
Oui, bonjour, Sophie Hérault, je suis médecin généraliste et je m'occupe aussi d'interruption de grossesse. Et je voulais revenir justement sur ce qui vient d'être dit, c'est qu'on a parlé du dépistage de la violence conjugale pendant la grossesse. La grossesse est connue comme facteur de risque. En plus, la femme est vue tous les mois, donc c'est vraiment un moment privilégié pour faire ce dépistage. Mais je voudrais dire aussi que les grossesses non désirées sont également un moment particulièrement précieux pour faire ce dépistage. Et que des études récentes en Seine-Saint-Denis ont montré que les femmes qui avaient fait plus de 2 IVG étaient particulièrement sujettes à des violences conjugales et qu'il y en avait 25% dans l'étude qui avaient subi ces violences conjugales. Donc je pense que vraiment là, c'est un moment particulier de dépistage. D'autre part, je voudrais aussi revenir sur ce qu'a dit Madame Baldeck. C'est vraiment, son intervention était passionnante. C'est vrai que je suis pas sûre qu'on puisse former des médecins spécialistes de la violence conjugale. générale, je pense que les médecins généralistes qui sont effectivement en première ligne pour dépister ces femmes pour diverses, qui viennent pour divers motifs, hein, qui viennent pour des troubles digestifs, des troubles gynécologiques, mais enfin des troubles du sommeil. En fait, c'est souvent en fin de consultation qu'on arrive à effectivement soit en ayant à poser une petite affiche dans la salle d'attente, soit en posant directement la question. Hein, les médecins sont et les autres professionnels de santé sont encore extrêmement réticents à poser les questions directement. Mais vraiment, bon, les médecins généralistes s'occupent aussi d'addiction, d'alcool, etc. Il a été dit que souvent les femmes victimes de violences étaient sujettes à des addictions. Je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait une formation des professionnels de santé dès la base, dès les études, comme ça a été dit par le professeur Henrion, pour qu'ils puissent prendre conscience des possibilités et d'être en réseau avec, parce qu'un médecin généraliste ne peut pas faire tout seul, de même qu'un gynécologue ne peut pas faire tout seul. Il faut être en réseau avec les associations, avec les assistantes sociales, avec le centre d'orthogénie, avec la maternité. Il faut vraiment que ce soit un ensemble de professionnels qui puissent répondre à cette demande. Voilà, merci.
Bonjour, Agathe Leroy, sage-femme. Moi, ma question, c'est pourquoi vous n'utilisez pas les sages-femmes ? Parce qu'en France, il y a des sages-femmes qui sont formées et qui sont au chômage. Et c'est un peu une contradiction aujourd'hui. C'est vrai que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une grève des sages-femmes qui a commencé depuis 2 mois. On aimerait que les pouvoirs publics nous utilisent. On pense qu'on est une profession qui a aussi été victime de violences, de discriminations liées au sexe. On a voulu aller porter plainte au Parlement européen par rapport à ça. Et en fait, c'est une procédure qui est très coûteuse. On n'a pas les juristes, on n'a pas l'argent. Donc là, on fait une grève. Voilà. On aimerait juste que les pouvoirs publics nous utilisent. Cette grève-là, elle est difficile, mais on pense que c'est pour la santé des femmes. Donc on va aller jusqu'au bout. La violence faite aux femmes, elle se traduit tous les jours à tous les niveaux. J'ai entendu ce matin aux informations que les femmes politiques allaient signer un manifeste pour sortir de la politique du Moyen-Âge, parce que même ici au Sénat ou à l'Assemblée nationale, on entend des remarques sexistes et misogynes. Voilà. Nous, dans notre quotidien sur le terrain, c'est pareil. Depuis qu'on a débuté la grève, il y a des pressions, il y a des intimidations. Moi, j'ai une casquette je suis syndiquée au syndicat professionnel. J'ai eu des retours de sages-femmes qui ont entendu un médecin qu'elles appelaient une nuit pour un bébé qui faisait une bradycardie pour une césarienne en urgence, lui dire « tu veux être PH, bah t'as qu'à la faire la césarienne ». Ça aussi, c'est de la violence. Il y a de la violence partout. Nous, on veut juste que les pouvoirs publics se servent de nous. Parce qu'on est un professionnel de santé qui peut être utile pour la santé des femmes.
Essayez de vous concentrer sur le sujet, peut-être.
Voilà, c'est la violence faite aux femmes, donc
oui,
c'est ça.
Oui,
voilà.
Il y a une autre question là.
Et pratique, je suis médecin urgentiste, donc voilà. Et devant la demande de plus en plus importante de certificats médicaux, de prise en charge des patientes victimes de violences conjugales, on s'est posé quelques questions. J'ai eu la chance, tout à fait par hasard, au cours d'une réunion citoyenne, de rencontrer la présidente de l'association GMDFD. Je suis sur la Haute-Savoie. Hein. Et avec ces personnes, nous avons mis au point un protocole de prise en charge des patientes victimes de violences conjugales aux urgences. Ce protocole vient d'être validé par la cellule qualité. Et ma question était pratique, si vous avez dit que vous alliez rechercher des médecins référents dans les hôpitaux. Donc pour nous, c'est tout frais, c'est une prise de conscience, hein, ça commence maintenant. Et je voulais savoir comment il fallait faire pour se faire connaître, vers quelle autorité il faut se retourner pour dire nous existons, nous commençons, nous travaillons, nous nous intéressons. Et je crois que Mme van der Rechhoff est dans la salle et donc c'est pour l'instant essentiellement avec cette association que nous travaillons. Voilà. Donc pour vous dire qu'avant j'étais gynécologue et c'est peut-être pour ça parce que au courant de mon activité de ville, et c'est un sujet que je n'ai pas abordé parce que les patients n'en parlaient pas ou répondaient par la négative.
Peut-être
c'est paradoxal,
ouais.
C'est comme ça.
Peut-être que Mme Bulteau, qui est conseillère auprès de Mme Belkacem, pourrait répondre à la question quand on est référent, quand on s'estime expert, est-ce que vers qui on peut se retourner pour créer un réseau et avoir une certaine reconnaissance ? Dans le pratique, donc on va vous interroger.
Bonjour, merci. Écoutez, c'est très intéressant ce que vous avez fait. Je pense que le mieux, c'est de contacter l'ami prof. qui va gérer ça. Donc je peux vous donner ma carte et puis vous donner les coordonnées de la personne à contacter.
Nous sommes deux médecins. Donc moi, je suis un médecin qui a plutôt une tendance gynécologique. Le deuxième médecin, un médecin urgentiste jeune femme et qui est médecin de prison. Donc elle a à prendre en charge les auteurs de violences. Et je trouve que l'association est intéressante puisqu'on a les deux versants du problème et on voudrait montrer une équipe référente si c'est possible.
Bah, c'est très intéressant, je pense que c'est possible. Vous mettez le doigt sur quelque chose, c'est qu'il y a un grand besoin de coordination et c'est un des rôles de l'ami prof, justement, d'essayer de réunir et de coordonner les acteurs, en plus de son rôle de formation des professionnels. Oui, venez. Ouais.
Oui, j'aimerais poser une question à titre de simple citoyen. Je suis gynécologue accoucheur en retraite et sans vouloir étendre le débat, je constate que les scènes de violence sont nuit et jour. On est complètement affecté par les médias, par des scènes de violence dans tous les domaines et en particulier dans des violences à l'égard des femmes. Et est-ce qu'il n'y aurait pas dans les pistes, c'est une question que je pose au professeur Henrion, est-ce qu'il n'y aurait pas dans les pistes une alerte à donner devant devant ces violences qui sont en permanence devant nos yeux et en particulier aussi des tout petits avec les bandes dessinées où j'ai l'impression qu'ils encaissent une force de violence qui ne les émeut plus. Et ça, je trouve ça extrêmement préoccupant. Je voudrais savoir ce que vous en pensez.
Alors, je sais que quelque chose, en particulier à la mi-prof, est en cours parce que, évidemment, dans nos recommandations, je ne vous en ai pas parlé, mais il y avait aussi la sensibilisation dès les études et dès le début du respect de la femme d'une façon générale. Et je pense que le problème va être repris et va être traité. Mais alors là, c'est un problème d'éducation nationale. Peut-être que madame pourra répondre. Mais je sais que c'est une préoccupation majeure de notre ministre actuellement.
Alors effectivement, il y a dans le plan contre les violences, ça s'inscrit dans toute la problématique de la place de la femme, de la lutte contre les violences sexistes, etc. Et donc vous savez qu'il y a une circulaire qui impose des cours d'éducation sexuelle à l'école et qu'elle est en train d'être travaillée par notre ministère et le ministère de l'Éducation nationale. L'idée étant effectivement que ces cours doivent apprendre tout simplement le respect aux garçons et aux filles, etc. Et parallèlement à ça, dans la loi sur la refondation de l'école, il a été prévu des formations pour les enseignants aussi, pour les sensibiliser à ça.
Est-ce que vous voulez dire par là qu'aujourd'hui, ce qui est obligatoire, enfin recommandé, c'est l'éducation à la sexualité, qu'est envisagée une formation à un niveau beaucoup plus précoce, c'est-à-dire au niveau primaire, à l'éducation à la relation garçon-fille, c'est ça que vous voulez dire? Donc au niveau primaire, comme ce qui existe depuis des années au Canada?
En fait, ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, ce qui est prévu n'est de toute façon pas appliqué. Puisque normalement, je crois que c'est prévu 3 heures par niveau et c'est absolument pas appliqué. Donc ça, c'est un problème qu'on retrouve très souvent en droit des femmes, c'est-à-dire qu'il existe en fait beaucoup de lois et souvent on a un problème de mise en œuvre. Donc c'est pour ça que dans ce cadre-là, on veut retravailler la circulaire déjà pour que les choses soient appliquées. Et c'est pas encore complètement finalisé, mais l'idée, voilà, c'est que ce soit une éducation au sens à la sexualité et à l'éducation au sens large.
Oui, moi, je pense que ça serait très important de réorienter un petit peu cette éducation sexuelle dans le sens d'une prévention des violences, parce que il faut vivre avec son temps. Il me semble que l'éducation sexuelle la télévision s'en charge largement et qu'à 10-12 ans, déjà, nos jeunes voient des choses qui nous font frémir.
C'est pas de l'éducation sexuelle.
Si je peux me permettre, je pense qu'effectivement, on sait, parce que des études l'ont montré, que des enfants à partir de 12 ans ont déjà presque tous été en contact avec un film pornographique, par exemple. Je pense que personne ne peut légitimement prétendre qu'il s'agit d'éducation sexuelle. Et je pense que dans l'intervention, je ne sais pas où, du monsieur qui vient d'intervenir, il y avait peut-être la référence justement au fait que nous sommes, les jeunes en particulier, abreuvés d'images pornographiques, que ces images pornographiques ne sont ni plus ni moins des mises en scène de violences à l'encontre de femmes, et que parmi les moyens de lutter contre, enfin, quand on regarde par exemple la définition, alors moi je reprends ma casquette de juriste, des provocations à la haine à raison du sexe, qui sont une infraction pénale, hein, qui sont prévues par le code pénal, et quand on regarde ce que sont ces films et ces images pornographiques, pour moi on rentre complètement dans le champ couvert par cette infraction pénale, sauf que ça n'est jamais poursuivi comme tel, et que ça pourrait aussi faire l'objet d'une politique volontariste, une politique pénale des parquets.
Oui, c'est une proposition. Je suis Caroline Viry, je suis sage-femme et acupuncteur. Et en tant qu'acupuncteur, il m'est souvent arrivé, et je pense que c'est très important de le faire connaître, d'aider les femmes dans cette phase difficile d'agression avec des points qui permettent de prendre du recul, des points qui mettent une protection par rapport aux agressions, des points qui permettent de s'ériger pour se redresser et reprendre sa vie en main. Et c'est une médecine qui est assez extraordinaire sur son impact psychique et avec les conséquences physiques qui en résultent, y compris les contractions de la grossesse quand il y a eu un viol, si on intervient à titre sur le versant psychique. Donc je trouve que dans une journée comme ça, c'est important de savoir que l'acupuncture est extraordinaire pour aider ces femmes.
Oui, une autre question.
Je suis gynécologue et sexologue. J'ai longtemps travaillé en cabinet libéral et actuellement, je travaille dans une maison des ados, des adolescents en Maine-et-Loire. Et je voulais signaler ce dispositif qui est extrêmement intéressant parce que nous recevons énormément d'adolescents, mais aussi d'adolescentes. Et dans les raisons de venir nous voir, les abus sexuels, qu'ils soient intrafamiliaux, ou qu'il soit de la part de jeunes gens ou de la part de personnes plus âgées, font partie des choses que nous voyons très très souvent, malheureusement. Voilà. Donc ce dispositif des maisons des adolescents qui est parfois mal connu, malheureusement nous n'avons pas non plus beaucoup de budget, fait partie des dispositifs qui permettent de lutter aussi contre la violence faite aux femmes et aux jeunes femmes en devenir.
Merci. Je suis psychologue clinicienne, j'exerce en unité médico-judiciaire. J'ai deux questions et une remarque. Ma première question, c'est une question que je relaye. J'ai assuré un enseignement il y a un mois de ça auprès à l'école de sages-femmes sur le dépistage, la prise en charge, la problématique de la violence conjugale. Et une question m'a été posée, donc je vous la livre. Notamment par rapport aux recommandations de l'entretien du quatrième mois sur la fameuse question qui permet de dépister les violences. La question des sages-femmes, c'est comment fait-on, puisque très fréquemment, le conjoint est présent à cet entretien du quatrième mois. Donc une question très technique, très pragmatique, mais à laquelle finalement j'avais peu de réponses. Donc je la pose ici. Mon autre question, c'est pour Madame Baldeck. Je vous remercie pour la qualité de votre intervention qui était très informative. Et donc c'est une autre question assez pratique. Est-ce que nous, UMJ en Lorraine, à Nancy précisément, peut-on faire appel à votre association? En tout cas, voilà, vous orientez des personnes victimes. Jusqu'où vont vos déplacements sur le territoire national? Et puis la remarque, c'était plus aussi un conseil pour la personne qui s'est exprimée de Haute-Savoie, le médecin urgentiste. Aussi, peut-être vous inviter aussi à vous rapprocher de l'unité médico-judiciaire qui est à proximité de votre ville, parce que c'est maintenant le rôle des UMJ, hein, que d'accueillir les femmes victimes de violences, de rédiger les certificats médicaux, que ce soit sur consultation et sur réquisition. Et on est vraiment ressource pour les collègues médecins sur cette problématique-là.
Je crois que c'est très important ce que vous venez de dire sur la consultation du quatrième mois, parce que ces maris seront particulièrement présents et répondront aux questions. Moi, je me souviens d'un mari qui connaissaient à ma question, est-ce que vos dernières règles, etc., et votre cycle, ils répondaient systématiquement, et la femme se taisait. Et ça, on peut l'avoir à la consultation du quatrième mois. Alors, heureusement, en d'autres temps, nous n'avions pas souvent les maris, et ça permettait des discussions plus libres. Mais maintenant, c'est évidemment, les maris sont présents.
Oui, alors, moi, je réponds très facilement, donc, sur... La question de savoir si on peut nous réorienter des victimes à partir du moment où les faits qu'elles dénoncent rentrent dans le champ de compétence de l'association. Violence sexuelle au travail, la réponse est évidemment oui. Donc, j'ai une collègue qui la référente pour la région Lorraine, qui se déplace régulièrement pour faire des entretiens avec les victimes. Et dans ce cas-là, on nous prête des locaux. Je pense que c'est au CIDF que nos permanences se tiennent. Voilà. Nous, on pourra directement intervenir aux côtés des victimes et, dans le meilleur des cas, intervenir avec le réseau local.
Je voudrais répondre aussi par rapport à l'entretien du quatrième mois. Moi, j'ai un petit conseil. Par rapport au mari violent, en général, c'est effectivement un mari qui est très, très présent, très bon voisin, très sympathique. Et donc, on peut les repérer. Ça ne veut pas dire que tous les gens sympathiques sont auteurs. Mais le fait de poser la question... Déjà, c'est important aussi pour l'auteur, parce que lui, il est convaincu qu'il n'est pas dans la violence. Donc, c'est important que l'auteur s'interroge sur le fait qu'on pose cette question, parce que ça c'est aussi faire progresser les choses. Et après, si on a un doute, on a toute possibilité d'en parler ou de mettre une petite annotation dans le dossier et de revoir cette patiente dans un contexte un peu plus intime. Et on représente en plus l'autorité pour le mari. Ils sont assez respectueux de ça. Donc on n'a pas trop de difficultés avec eux.